à toutes et à tous. Nous concluons cette semaine en effet autour de l'animal. Et comme chaque vendredi, nous proposons à quelqu'un d'en donner sa propre variation en 5 extraits de film. Bestiaire cinématographique par Charles Demeaux.
C'est un film sans début ni fin. C'est un film avec une structure étrange. Quelque part, c'est aussi un film sans structure, sans narration. Il n'y a que des actions des comédiens, des personnages. On mange, on se couche, on marche, on reste debout, on va aux toilettes. Mais toutes ces actions sont accomplies dans des conditions difficiles. C'est-à-dire, on va dormir dans un endroit qui n'est pas approprié, on va manger dans la rue, parce que tous ces êtres humains sont poussés dans des situations extrêmes. Et dans ces situations, on voit l'animal en homme. Et chacun ressemble à un chien errant.
À l'instant, les chiens errants dans la voix de Tsai Ming-yang. Et c'est du loup qu'il y avait dans votre radio lundi. Du sud de la France au parc du Yellowstone, nous avancions avec le philosophe Baptiste Morizo les bases d'une possible dipomlacie avec lui. Parce qu'on apprend à vivre avec le plus hostile, le plus détesté, le moins approchable. On élargit ou l'on retrouve, nous humains, notre possibilité d'être parmi le vivant et non plus consommateur, inventeur ou dominateur du sauvage. Ce sont des pistes à creuser. Le livre est publié aux éditions Watt Project et nous le conseillons. Mardi, les meutes de corps humains vibraient au diapason des lieux. Mercredi, photos et vidéos kawaii de bébés animaux mignons visionnés par millions interrogeaient notre rapport à ces images. Et hier, enfin, la mer gelée craquait notamment à la présence joyeuse et simple du chien dans les textes. Beaucoup plus que 30 millions d'amis à réécouter, partager, diffuser ce week-end. Rendez-vous pour cela sur franceculture.fr. Pour l'instant, il est 14h passées de 3 minutes. Bienvenue dans les nouvelles vagues. Et en fin d'émission, chaque jour, nous proposons à quelqu'un de nous raconter 5 moments qui ont marqué son parcours, qui ont transformé durablement ou non sa vision du monde, ou simplement des moments émouvants. Cette semaine, Marie Ampe, costumière pour la compagnie du Théâtre Inutile, se prête à ce jeu-là. C'est une compagnie d'ailleurs dont la dernière création s'appelle La Conférence des Chiens, une sorte de fable philosophique qui interroge conjointement humanité et animalité. Aujourd'hui, Marie Ampe, pour terminer, nous parle d'un choc de spectatrice devant une création de Maggie Marin, où des couches de tissu recouvrent le sol et les secrets. Récit vers 14h45. C'est le dernier moment d'une semaine animale et il y a ceux dont le bruit des sabots d'un galop sur le sol fait frissonner, ceux dont l'ébrouement d'un cheval, l'odeur d'une écurie, la vibration des naseaux émeut. J'en suis définitivement et pour toujours, et peut-être en êtes-vous aussi, Charles Demeaux. En tout cas, c'est à vous qu'on a demandé de décliner notre thème animal en 5 extraits de films. Vous êtes cinéaste, votre film Stretch met en scène un jeune jockey qui tente sa chance à Macao. Vous filmez donc les casinos, les hôtels, les rues et les chevaux. Évidemment, mais il y est aussi question de pandas, les pandas qui sont rares car, dit l'un des personnages, ils ne font l'amour qu'une seule fois par an. Vous êtes par ailleurs producteur, entre autres des films d'Api Chapong, Vera Setakou, depuis son deuxième long métrage, et vous êtes présenté comme un véritable alter ego de ce cinéaste thaïlandais dont le cinéma place l'animal dans une place très importante et singulière. On va évidemment en parler. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Si on essayait, alors je faisais l'hypothèse que vous étiez comme moi et comme d'autres, ému au son d'un galop, au son d'un ébrouement ou d'un naseau qui frétille. C'est une hypothèse. Quel est votre rapport à ces animaux-là, les chevaux, et aux animaux en général?
Les chevaux, c'est quelque chose de très particulier, comme vous le dites. C'est quelque chose qui touche de façon immédiate ou pas. Et c'est quelque chose qui ne se négocie pas, qui ne se discute pas, on ne peut pas convaincre quelqu'un de la beauté du cheval. C'est quelque chose qui... C'est un rapport immédiat, et c'est un rapport immédiat qui est complètement ancestral, puisque c'est une des premières représentations humaines, que on confie au cheval ses rêves, on confie au cheval sa vie, on confie au cheval tout, en fait. Donc oui, c'est un rapport très direct, très affectif, très Ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un rapport aussi très réel. C'est-à-dire que c'est pas juste une représentation de l'animal, c'est quelque chose qui accompagne toute la vie depuis très longtemps et qui et à qui on consacre tout son être en entier, c'est-à-dire c'est à la fois une compagnie, c'est à la fois une réflexion, c'est à la fois quelque chose de très sentimental et très vibrant, et en même temps c'est aussi un sport, c'est aussi une, enfin, c'est énorme, c'est toute une vie complète.
Vous êtes d'ailleurs
on dit homme de cheval.
Et on dit homme de cheval, ouais. Ça s'est fondé où vous justement cette qualité d'homme de cheval?
Je sais pas si je peux me recommander complètement de la qualité d'homme de cheval, parce que c'est aussi un double mot. C'est un mot qui qualifie le rapport qu'on peut avoir au cheval, mais c'est aussi un énorme compliment. C'est, l'homme de cheval est presque un demi-dieu pour moi. Donc peut-être, c'est difficile.
Ou alors un homme qui aime les chevaux, un homme qui a été près des chevaux, un homme qui est encore près des chevaux, comme ça on va rester modeste.
C'est dans les racines de l'enfance, je crois. C'est dans les racines du rapport à la nature. C'est une nature amie qui accompagne, qui fait. C'est vraiment très petit. On a cette chose. On voit un cheval et on ne sait pas pourquoi. C'est immédiat. Il y a quelque chose qu'on veut. On veut le caresser. On veut lui parler. On veut savoir qui il est. Et on sent tout de suite que, pour ceux qui ont la chance d'avoir ce contact, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose de différent avec un cheval.
Vous voulez dire qu'il y a comme une sorte d'élection de cet animal-là plutôt qu'un autre ?
Je pense que c'est même pas vraiment une élection. Oui, c'est une élection, mais pas volontaire. Pas. C'est quelque chose qui, tout d'un coup, surgit comme étant différent de tout le reste.
Vous vous rappelez des premiers chevaux que vous avez vus ? Que
les
vous avez accrochés ?
Ça devait être assez modeste. Hein. Ça devait être. Je crois même que c'était peut-être des chevaux de labour encore à la campagne. Ça, puis je me rappelle effectivement des souvenirs de campagne plutôt au début, puis après bon les cycles plus classiques où on va monter à cheval, apprendre dans un manège, des choses un peu plus ennuyeuses, mais en même temps il y avait un certain charme à cet ennui, à cette discipline, et puis cette espèce de chose, on comprend vite qu'il y a tout un monde derrière.
Et quand vous devenez cavalier, vous avez l'impression que votre rapport change avec cet animal ? Ou qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette de ce qui vous tombe dessus, de la magie de ce rapport qui vous tombe dessus, qui demeure ? Qui demeure dans cet ennui.
À un moment donné, c'est la vie, c'est-à-dire qu'on plonge dans la vie et on se pousse pas. Je suis pas philosophe des chevaux. Je suis juste quelqu'un qui adore les chevaux, qui a été conquis par cette vie de chevaux et qui a monté à cheval. Bien que j'avais des handicaps énormes en fait, parce que je suis beaucoup trop grand, donc je fais des régimes absolument incroyables pour pouvoir faire le poids, comme on dit. Et donc c'est, oui, on plonge là-dedans et tout d'un coup, voilà, toute la vie est prise par cet animal.
Attendez. Quand il doit y en être là. Mais. Oh. มันจริงมากมันจริงจนทำให้ข้ามีชีวิตอยู่ได้เมื่อข้าได้กินจิตวิญญาณของแกแล้วเราทั้งคู่ก็ไม่ใช่สัตว์คนอีกต่อไป
Alors c'est votre premier choix, en tout cas c'est celui qu'on a mis en premier, Charles Domo, c'est un film d'Apichapong Veracetacul que vous avez produit, coproduit, un film qui date de 2004, Tropical Malady. Peut-être avant d'entrer un peu plus précisément dans la description de ce film et de la place de l'animal, comment est-ce que vous découvrez le cinéma de Veracetacul ?
Bah, je le découvre très simplement parce que déjà je rencontre Apichatpong Veracetacul et c'était un moment très particulier où nous étions à la frontière entre les arts plastiques, puisque nous avions plus une pratique proche des arts plastiques, et avec un désir de cinéma très fort, et évidemment une impossibilité encore de pouvoir réaliser ce... concrétiser ce désir de cinéma. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Apichatpong, Joe, donc son nickname, était en train de préparer un film merveilleux qui s'appelle Mysterious Object at Noon, que j'ai essayé de promouvoir et de compléter, de terminer, et qu'on n'a jamais réussi à terminer. Ça. Et au même moment, nous étions en train de créer Anna Sanders Film pour mon premier film, Le Pont du Trieur, que j'ai écrit avec Philippe Parrainot. Et donc, comme c'était mon premier film, c'est moi qui me suis retrouvé avec la société de production et le rôle de producteur, entre guillemets. Voilà, tout à fait par hasard.
On parle de ce film-là, donc Tropical Malady. Est-ce qu'on peut essayer de le décrire en quelques mots, peut-être sa structure et l'apparition et la place de l'animal?
Ce qui est intéressant dans ce film, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas le décrire, parce que c'est un film qui est un film d'immersion et d'expérience. Et c'est un film qui, justement, à propos de l'animal, propose cette expérience de la frontière, Ça rejoint un peu ce que vous disiez de vos débats précédents de la semaine. Est-ce qu'il existe vraiment une frontière claire et nette entre l'homme et l'animal? Aujourd'hui, la science d'une part, la philosophie surtout, nous montre que c'est plus possible de continuer à envisager ça de façon aussi radicalement séparée, qu'il y a une espèce de nature commune et que nous devons habiter tous ensemble cette nature commune. Et ce film est justement une proposition, d'expérience de cette frontière. De cette glissement, que cette frontière qui est plus une frontière, justement, qui est un glissement. Donc un personnage, tout d'un coup, disparaît, et en fait il ne disparaît pas, il retourne à la forêt. Donc pour le côté humain des gens, il disparaît, mais l'histoire du film va nous montrer qu'il n'est pas disparu, il est juste retourné à sa nature profonde, à la forêt, et il est un tigre.
Et alors justement, le fait que ce soit un tigre, est un choix d'animal qui n'est pas anodin. Vers quoi nous amène justement la figure de ce tigre-là?
C'est pas anodin, mais il faut aussi le voir aussi dans le cadre... c'est pas anodin parce que déjà un tigre c'est très gros, très méchant, très dangereux et très très beau. Donc c'est un animal de cinéma parfait, quoi. Mais aussi c'est un animal qu'il faut replacer après dans le contexte du film, qui est un film thaïlandais, qui est basé sur un conte cambodgien. Donc c'est un animal, et c'est un animal qui est mythique. Tsinga, il y a la bière, le Tsinga bière.
C'est vrai.
C'est l'animal, mythique, voilà. L'animal mythique en Thaïlande, qui représente vraiment le sommet de la pyramide. Et aussi qui est déjà mythique parce qu'il y en a de moins en moins et qui sont présentés pour chasser, et qu'on connaît toutes les histoires de trafic autour de ça. Oui, c'est sûr que c'est une question qu'on peut se poser. C'est effectivement, il s'est pas transformé
en éléphant, scarabée,
en éléphant encore. Ça aurait été de la même catégorie, mais plus difficile à imaginer de façon fictionnelle, vu la lourdeur de l'animal. Mais il s'est pas transformé, dirions-nous, en scarabée ou en chose plus commune. Donc peut-être il y a là une petite vantardise humaine qui reste malgré tout. Mais ce qui était intéressant surtout, c'est le rapport justement à l'animalité dans ce qu'elle a de plus ambivalente. À la fois, elle fait envie parce que le tigre, l'animal, agit suivant un code qui n'est pas un code social, qui est un code émergent de la nature, émergent de sa condition même, de son ADN. Bien qu'on puisse encore en discuter, mais au moins dans ce cadre de vie sauvage, parce que c'est un rapport, le tigre, c'est un rapport d'envie, parce que c'est un animal qui est très beau, déjà. Les attributs du tigre, on sait tous, les peaux de tigre, tout ça, les fourrures, tout ça. Donc c'est un animal qui est très beau, et puis c'est un animal qui a évidemment la démarche qui a été... des milliers de fois dessinés dans les dessins animés, parce que par hasard, si c'est la démarche du félin est quelque chose qui inspire. Et puis après, c'est un peu le personnage du roi, du symbole. Donc forcément, il y a un désir vers le tigre, et puis il y a une peur, parce que c'est vrai que la nature a son renversement, qui est le danger des choses qu'on connaît pas, le danger des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, je peux vous assurer que c'est réel, parce que quand on tourne la nuit dans une jungle en Thaïlande et qu'on est un petit Parisien ou un petit Bangkokais, c'est pas si facile que ça.
D'ailleurs, existe vraiment quelque chose des animaux, de l'animalité qui règne dans la jungle nord de Thaïlande par le son. Il y a quelque chose qui est très très fort. La présence animale vivante est très très forte.
C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. C'est à la fois d'une beauté infinie et d'une... Au début, quand on rentre, c'est très très beau. Alors, on est un peu comme un touriste. On est émerveillé. On se dit quand même qu'il y a un truc un peu bizarre, mais on est émerveillé. Et puis après, quand on passe, qu'on travaille, que... Bizarrement, dans la jungle, la nuit, il fait très très froid, en fait, parce que la température descend très brutalement, il fait très humide, et bien qu'il fasse encore 10-15 degrés, ça paraît être vraiment très froid. Et on a tous ces sons qui montent et qui vous entourent de partout, il fait nuit, et on a la seule lumière qu'on a est très dramatique, puisque c'est celle des projecteurs. Donc on est une espèce de lumière presque de murnau, et on est avec tous ces bruits qui vous entourent, et ces bruits qu'on connaît pas, qu'on sait pas identifier, où chacun fait semblant de reconnaître ce que c'est, d'avoir la trait sur lui, mais en même temps, petit à petit, le doute s'installe, la peur s'installe, une espèce de peur moi, c'est-à-dire c'est pas une peur violente, c'est une peur de justement de cet état profond et inatteignable.
Dans les discussions qui entourent la production de ce film et d'autres films, qu'est-ce qui revient avec Vera Cetacool sur la place de l'animal dans la manière dont il construit ses fables, dont il filme ces fables-là ?
Ce qui revient, c'est plusieurs choses. Ce sont plusieurs choses. C'est d'abord une pensée moderne qu'on est tous obligés de considérer, de vivre. On est obligé de vivre avec cette idée, que c'est fini cette idée de penser qu'il y a une petite case où on met les animaux, une petite case où on met les hommes, une petite case où on met les bons, une petite case où on met les méchants, et que le monde est comme ça catégorifié. Donc il y a forcément... c'est aussi un rapport à l'état d'épuisement du monde, à la connaissance du fait que, à partir du moment où on a compris que le monde était physiquement... se terminer avait une fin, avait un début, une fin, avec les choses n'étaient pas infinies. Ça a changé évidemment tout le paradigme, ça, et que évidemment que nous sommes nous, comme tout le monde, mais plus spécifiquement en tant que cinéaste, confrontés à ça, quoi. Donc forcément, c'est une question qui nous anime. Et en plus, dans le monde asiatique, qui est encore très impressionné et très imprégné d'idées cosmogéniques du monde, et très imprégné de bouddhisme, Joe est assez imprégné de bouddhisme, forcément...
Joe, c'est donc le nickname Apichatpong Vera Cetacool.
Mais je suis très content que vous arriviez à dire ça, le nom, très facilement.
Tranquille, je me suis voilà. Entraîné, vous n'imaginez
pas. Non, mais je pense pas, justement, je pense que c'est très facile à dire, mais tout le monde me dit toujours, on comprend rien. Mais je pense que dans ce monde spécifiquement asiatique, il y a une espèce... de plus grande facilité à jouer avec ces concepts.
There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws.
Jaws, c'est le titre original pour Les Dents de la Mer, ça veut dire mâchoire, c'est un film de 1975, c'est le deuxième choix de cette carte blanche cinéma Charles Demeaux sur le thème de l'animal. Alors de quoi il est question dans Les Dents de la Mer ?
Je suis désolé, je vous impose pour la dixième fois de la semaine Les Dents de la Mer, non ?
Eh bien pas du tout.
Non, ah, c'est
pas
incroyable.
Du tout. On n'en a pas du tout causé depuis lundi, on n'a jamais évoqué les requins dans la mer, les requins construits par le studio, la peur, et puis moi je ne l'ai pas vu, donc vraiment vous n'imposez rien.
Bon, on est presque deux, parce que moi je l'ai vu il y a très très longtemps, je ne me souviens plus de rien.
Alors, de quoi on parle ?
Voilà. Non, mais on pense que c'est un film très important, parce que déjà c'est justement le versant opposé à tout point de vue de ce qu'on vient d'entendre, à tout point de vue, parce que c'est le versant opposé parce que c'est l'animal en tant que créature complètement séparée donc de l'homme et dont l'instinct dangereux est mis en scène comme une volonté du mal, quoi, comme une personnification du mal. Donc finalement, c'est assez bizarre parce que d'un côté, ça dénie à l'animal sa place dans une espèce de continuum naturel, mais en même temps, ça le met au même niveau que les créatures de Dieu, mais comme étant une créature du diable. Donc là, il y a un espèce de paradigme assez intéressant qui peut-être expliquerait aussi les fondements profonds de la société américaine.
C'est ce que j'allais dire, c'est que vous dites c'est en tout point opposé à ce qu'on vient de développer à propos des films, ou à la fois des films d'Apichatpong Veeraseethakul, mais aussi des discussions qu'il y a entre vous au sein de ce groupe-là par rapport à l'animal. Ici, on est aussi d'un autre côté du monde, d'un autre côté de la culture, de la façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a dans Les Dents de la Mer quelque chose de très américain, au sens un peu archaïque et aussi caricatural du terme?
Non, je dirais pas ça complètement comme ça, parce que ça serait peut-être trop facile. Bien sûr qu'après, les résultats sont tous ce qu'ils sont, on peut dire. Mais je dirais que c'est peut-être le dernier, et peut-être la célébration de la fin, justement, d'une pensée moderne du monde. Et après, c'est aussi un film, il faut pas l'oublier, qui est très important, parce que c'est un des films fondateurs de la... Comment dire, j'aime pas du tout le mot, mais finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, de la consommation culturelle. C'est le premier blockbuster conçu comme un blockbuster. Et intéressant, parce qu'on se rend compte, quand on pense à ce film et qu'on en dissèque un peu les arguments, que c'est pas idiot, quoi. C'est pas un film stupide, c'est un film qui ravive des questions philosophiques finalement profondes, qui ravive des peurs et des angoisses profondes de la société, et qui a eu comme caractéristique assez intéressante d'être un des premiers films d'entertainment qui décrivent le monde platement, c'est-à-dire comme il est, quoi. C'est-à-dire que c'est une plage avec des gens pas beaux ou beaux qui sont là en train de bronzer, et puis tout d'un coup, ils ont peur. Et puis, il n'y a rien. Et il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à ça. Et puis, l'animalité, la dangerosité de l'animalité, et ben finalement, bon, bien sûr, je me souviens de quelques débordements à la fin, je ne sais plus exactement ce qui se passe, mais ça, mais elle est très normale, elle est dans sa vraie réalité. C'est-à-dire que, et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que ce n'est pas un film, justement, du Hollywood classique des années 50 qui aurait, ou même 60, qui aurait reconstruit un énorme requin, ou des espèces de Pinocchio auraient habité à l'intérieur, et le requin aurait recraché des morceaux qui se seraient reconstitués à la fin, parce que tout se termine bien. Là, il y a quand même, je sais plus combien, de morts, il y a de la peur, il y a des gens qui sont juste sur la plage, juste comme de façon consumériste et simple, et telle qu'est la société au moment où... Donc c'est un film qui est important, je pense, à ce point de vue-là, quoi.
Et on est, évidemment, on est en 1975, il y a quelque chose qui est, en effet, vous le dites, assez plat dans la manière d'observer, et peut-être aussi dans la relation qu'il y a entre l'humain et l'animal. Il est...
Tout à fait.
Il est menacé, il a peur, point.
Voilà, voilà. Et c'est après, ce qui est intéressant, c'est justement le mécanisme fictionnel est basé justement sur cette identification bien et mal. Et là, ça prend une autre tournure, qui est peut-être la célébration de la fin du monde moderne, quoi.
Je suis dans un super paysage de verdure. Derrière moi, il y a Ed et Roddy, les membres d'un groupe de jeunes plein d'avenir. Ils défient tout, y compris moi. Ils sont sur leur territoire. Et si je montre ma faiblesse, si je bats en retraite, je peux être blessé, je peux être tué. Je dois tenir bon si je veux rester ici. Ils exploiteront la moindre faiblesse. Ils me tueront, ils me décapiteront, ils me découperont en morceaux. Et je serai mort. Mais jusqu'à maintenant, je persévère. Je persévère. Je suis souvent un gentil guerrier. Je suis doux. Je suis comme une fleur. Comme une mouche sur un mur qui observe, sans prendre parti, sans m'immiscer. Il m'arrive d'être défié. Et alors, le gentil guerrier doit devenir un samouraï. Il doit devenir tellement, tellement redoutable, tellement insensible à la mort, tellement fort, qu'il gagnera. Même les ours croiront que vous êtes plus fort. Et d'une certaine façon, vous devez être plus fort si vous voulez survivre dans cette région avec les ours.
Décidément, la question de la mort n'est pas loin. Et je crois que d'ailleurs, ça va courir tout au long de vos choix. Charles Demoux, ici, c'est le troisième choix de cette carte blanche cinématographique sur le thème de l'animal. On est avec Grizzly Man, un film d'Herzog, un film de 2004. Alors, pour le coup, on en a parlé d'Herzog pour une question de regard, lundi, entre l'ours et ce que Werner Herzog voit comme étant... rien, sinon un appétit pour de la viande. Ici, on entend la voix de Timothy, qui est cet homme qui est venu de plus en plus proche d'un groupe d'ours, j'allais dire d'ogre, quel lapsus, jusqu'à se faire tuer. C'est un film que vous découvrez quand et avec quel sentiment?
J'ai découvert ce film, moi j'étais toujours très impressionné par la figure d'Herzog. Je pense que ces films ont vraiment lancé quelque chose qui serait un genre cinématographique, qui raconterait l'histoire de notre monde tout en le démontant en même temps. Ce qui est assez bizarre parce que, justement, il n'y a pas cette, cette adhésion au monde qu'on peut avoir des blockbusters américains ou la culture américaine. Et il n'y a pas non plus cette espèce d'échappement du monde dans la fantasy ou dans le ça. Et puis c'est toujours cette espèce de retour aux racines de ce que c'est que le monde occidental, de ce que c'est que la civilisation, qui me fascine. Moi, le Aguirre est un choc absolument extraordinairement violent. On aurait pu mettre Aguirre avec ses singes et ses rats sur le bateau, sur le radeau, mais je pensais que c'était trop évident. J'étais persuadé que tout le monde l'aurait cité. Bon, Fitzcarraldo, il n'y a pas besoin de c'est tellement une métaphore de notre monde, mais même par rapport aux animaux, le Nosferatu est extraordinaire, avec cette espèce de chouette qui est de chauve-souris qui est le signal d'alarme, ça qui à la fois fascine les gens et leur fait peur et les avertit qu'il y a quelque chose qui va se passer de pas toujours très sympathique, et les débordements de rats qui envahissent la ville, enfin c'est formidable. Et là, tout d'un coup, c'est un film qui est complètement documentaire et qui se renverse comme un gant, puisque ce sont des images qu'il a récupérées d'un jeune garçon qui est parti poussé par un désir de construire sa vie, d'avoir un futur plus noble, plus ça, protéger des ours, des grizzlies, en Alaska. Et après, Herzog démonte un peu tous les fils de ça, c'est-à-dire démonte le manque, la naïveté de cette absence de réflexion, montre la sympathie de cette absence de réflexion aussi. C'est ça qui rend le film très très complexe, c'est qu'Herzog montre laisse de longs passages où on voit toute la sympathie que donne cette ça. On voit ce garçon qui s'enthousiasme pour ça, qui va faire des conférences alors qu'il y connaît strictement rien, qu'il n'est pas du tout scientifique. Mais et on voit les choses avancer comme ça, et on voit face à ça Herzog qui nous montre que attention, il y a peut-être aussi juste la nature derrière tout ça, et c'est tout est dans le juste, la nature. Et il dit la phrase, et je me rappelle plus justement de la phrase, mais elle est plus subtile et plus violente que ce que vous ne citez finalement,
parce au sens où c'est un rapport qu'on ne maîtrise pas,
non, au sens où il y a juste la nature, c'est-à-dire rien d'autre. Il dit dans les yeux de l'ours, il y a juste la nature. Il dit pas dans les yeux de l'ours, il y a de la viande. Il dit pas dans... Alors que ce garçon a pris une empathie très forte pour les ours. Il est persuadé que les ours le reconnaissent, que les grizzlies le reconnaissent, que les grizzlies ont quelque chose que les hommes n'ont plus, que tous les méchants gardes-côtes et américains veulent tuer les grizzlies. Et Herzog, il dit, attention, j'ai vu les images, je vois tout ça, et je vois le discours de ce garçon, et j'aime ce garçon, et néanmoins, à la fin, il y a juste la nature dans le regard de l'ours. Donc c'est pas un propos de dire attention, l'ours voit un morceau de viande. C'est dit, il y a juste la nature. C'est-à-dire qu'il y a pas d'intentionnalité, il y a rien d'autre. Ou alors s'il y a une intentionnalité, c'est une intentionnalité qui est pilotée par une espèce de méta-structure qu'on connaît pas, qu'on ne voit pas. C'est juste ça. C'est son point, il est juste là. Il appuie là-dessus. Il dit, finalement, quand on se rend compte des questions qui se posent aujourd'hui, des paradigmes actuels autour de ces questions de nature et de monde fini, on se dit, d'un côté, on se rend compte que on fait partie de la nature et qu'on peut plus séparer comme ça. Et de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a juste de la nature. Et ça ouvre une brèche et une question absolument sidérante, et c'est infini comme.
Mais quand vous dites il y a juste la nature, c'est-à-dire il y a juste du vivant dans lequel sont inclus à la fois le grizzly et à la fois Timothy.
Oui, bien sûr. Et il dit pas, il dit il y a juste la nature dans le regard de l'ours, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité, qu'il n'y a pas un programme, de gourmandise de l'ours qui se dit un petit américain, je vais le manger. Il n'y a pas ça. Et c'est ça qui rend la chose dramatique. C'est que... Et il n'y a pas... C'est juste là, quoi. C'est là.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
après ton tour de scène, tu t'arrêtes sur tes marques côté jardin, légèrement penché sur la selle, tu fixes la salle et tu remercies en saluant.
Où est le cheval?
Amenez ce compte cheval. Les lumières à son entrée. Ah nom de Dieu, ce qu'il est beau. Tom, Sonny fait son entrée, volte, trois fois, applaudissements, applaudissements, et il s'arrête à ses marques. Sonny, ta première réplique
Qu'est-ce
est...
que vous lui avez fait?
Des anabolisants. Et un peu de pénicilline.
Ce tendon, il faudrait le frictionner, le bander.
Ils disent que ça fait mauvaise impression sur le public.
Comment ça, mauvaise impression?
Sonny, aussitôt que tu t'es arrêté, tu salues et tu dis...
Ce cheval est drogué.
Et bien sûr, comment tu le ferais monter sur la scène avec tout cet éclairage et le reste?
Excusez-moi, est-ce qu'on peut continuer la répétition? Sonny, voilà ton texte. Ranch Breakfast, c'est le début de la journée d'un champion. Ensuite, tu regardes le cheval et tu dis, n'est-il pas vrai Rising Star? Si tu es d'accord, ne dis rien. C'est marrant, hein? C'est marrant. Allez, essaie.
Rising Star, c'est le nom du cheval qui est monté ici, ou en tout cas qui est approché par Sonny Steele. C'est un cow-boy à la retraite qui va devenir l'emblème d'une marque de céréales à qui on demande de tourner une publicité dans laquelle entre ce cheval. Mais au moment où le cheval entre en scène, cet homme se doute qu'il est drogué ou qu'on lui a fait quelque chose. C'est le quatrième choix de cette carte blanche cinéma autour du thème de l'animal. Charles Demeaux, pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on revient au début de l'émission. C'est un film qui est formidable, parce que c'est un film qui est d'une naïveté absolument confondante et d'une beauté confondante. Les deux en même temps, tout est mélangé, et c'est cette histoire de... C'est un poster de chevaux dans une chambre d'adolescence, et c'est ce mythe américain, et donc tous les mythes américains se rejoignent autour de ce cheval. C'est-à-dire, c'est le mythe américain du cow-boy, c'est le mythe américain de l'homme bon, c'est le mythe américain de la journaliste qui mène des enquêtes fabuleuses, c'est le mythe américain des courses, des grands espaces. Dans ce film, il y a tout. Il y a le road movie, il y a le scandale politique, la dépravation totale. Il y a tout. Et ça se termine de façon très bouddhiste, puisqu'à la fin, le héros va rendre le cheval à la nature et va l'emmener dans un endroit sauvage pour qu'il puisse redevenir un cheval libre et sauvage.
Et alors justement, quelle est la place de ce cheval qui, Rising Star, dont ce couple qui se forme petit à petit, hein, ce cow-boy à la retraite et puis cette journaliste, vont essayer de remettre en liberté Rising Star. Il est quoi? Il est quoi cet animal dans ce film?
C'est l'emblème. C'est l'emblème absolu. C'est l'emblème absolu parce que déjà, il est... Ce cow-boy qui est un héros cassé, un héros ruiné, qui est maltraité, qu'on exhibe. C'est très très beau la scène où il est exhibé justement dans ce casino, il a des lumières, là qui vient le titre.
Sur son
habit,
costume.
Son costume, le costume de lumière, il a des lumières qui flashent comme ça, il rentre dans le casino et à la fin donc il sauve le cheval en s'échappant de la scène. Et on le voit dans les rues de Las Vegas avec ses lumières qui continuent à flasher. Et c'est magnifique, après il s'échappe comme ça et ça... Ça me fait penser à ces tableaux kitsch de cette période, des années 70 d'ailleurs. On voit des chevaux ailés qui s'envolent dans des cieux violets. Donc c'est un film très très kitsch, très très beau en même temps, parce qu'on peut pas non plus... Il y a des très très belles images, des très beaux symboles, comme cet symbole du cavalier lumineux dans les rues de Las Vegas. Et c'est un film qui fait rêver, qui est très sympathique. Et puis en plus, dans un truc aussi simple, aussi naïf et tout ça, mais tout le cinéma des années 70, c'est condensé, quoi. Il y a un petit peu de Dennis Hopper dans Easy Rider, il y a un petit peu des Hommes du Président, il y a un petit peu... C'est absolument magnifique.
C'est un film de 1979, on ne l'a pas dit, de Sidney Pollack. Vous disiez tout à l'heure, au tout début d'émission, en parlant des films de Verhoeven Akul et de ce fameux tigre dans Tropical Malady, qu'il y a un désir pour l'animal en tant qu'il est aussi quelque chose qu'on n'est pas. La très grande force, la très grande beauté, la démarche féline. Ici, le cheval et la liberté du cheval, c'est aussi la liberté à atteindre, c'est aussi le quelque chose vers quoi l'on va.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est la liberté... précisément dans ce film-là, c'est évidemment le mythe fondateur des États-Unis, c'est le grand espace et le cheval au milieu, quoi.
Et la possibilité de fendre cet espace-là à l'infini. Mmh. Dans Stretch, alors là, c'est vraiment votre film, où le jockey va essayer sa chance, puisqu'il est vraiment aussi question de la chance à Macao, dans une sorte de Las Vegas géant, où la course de cheval est presque un tapis de jeu.
C'est un casino sur pattes, oui.
C'est un casino sur pattes. Sa propre liberté, sa propre émancipation à l'homme est assez proche aussi des questions de la manière dont on maîtrise et domine l'animal. On pourrait aussi effectuer une sorte de miroir entre libérer le cheval chez Sidney Pollack et se libérer de quelques carcans.
L'histoire elle est un peu particulière parce qu'il est éjecté de son métier de sportif.
Parce qu'il est contrôlé positif.
Voilà. En France, et donc il va trouver refuge dans ses paradis d'argent et d'argent facile de Macao. Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est le basculement entre d'un côté une société occidentale où le sportif a des règles, il y a toute une chose rationalisée et on cherche la compétence, le talent de façon assez simple. Et de l'autre côté, une société où cette société du jeu asiatique est une société où en fait le jeu n'est pas, c'est pas un jeu de genre grippe-sous, enfin, qui veulent vraiment gagner de l'argent. C'est un jeu où on se confronte à son destin. Quoi. C'est une confrontation permanente à son destin.
Et à sa chance aussi. Voilà. Est-ce qu'il
la chance dans le sens du destin, pas la chance dans le sens d'être. C'est vraiment. Et ça me fait. C'est cette phrase un peu de Platon qui dit que ce n'est que dans le jeu que l'homme est vraiment libre. C'est, on est là seul face à son destin et ça tombe ou pas, quoi, du bon côté. Et le film monte vers ça avec une application très fréquente puisque à la fin, donc, il va remettre tout son destin face à la mafia qu'il a piégé. Parce qu'évidemment, lui, c'est un naïf petit français et il tombe face à une mafia, une triade. Il se fait piéger et face à ça, il dit, je remets tout mon destin sur le jeu et il va jouer. Ça y est, on ne sait pas ce qui va lui arriver.
Oui, mais justement, le fait que ce soit des courses de chevaux, ça place aussi la chance au sens du destin, un endroit un peu particulier, quoi. Ouais. La course de chevaux, c'est aussi des animaux sur lesquels on parie, ou des jockeys sur lesquels on parie, une vitesse sur laquelle on parie, c'est particulier comme jeu, cette course.
C'est particulier, mais déjà parce que c'est le... Moi, ce qui me plaît dans la course de chevaux aussi, c'est que c'est un rapport au sport et au cheval assez simple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où, au début, fin du 19e siècle, on disait, voilà, le premier qui arrive là, il a gagné, et on parie que je vais gagner. C'est un truc direct, quoi, un truc frontal, immédiat, direct. Et qui a créé un sport au sens le plus large. C'est-à-dire qu'on essaie de sectionner les meilleurs chevaux, de les entraîner, de leur donner un moral, que le cheval lui-même participe à cette opération. C'est-à-dire que le moral du cheval est aussi important que son physique. Après, il faut des jockeys pour pouvoir piloter les opérations, des entraîneurs pour pouvoir entraîner, des éleveurs pour pouvoir élever. Enfin, c'est toute une chaîne très complexe et très belle qui génère son monde. Et le versant noir de ça, c'est ce qui se passe et se passait, ce qui a tendance vraiment à se réduire. Parce que où il y a le jeu qui prédomine et à la fin tout le monde s'en fiche des chevaux. C'est ce qui se passe sur cette hippodrome de Macao auquel est confronté les courses auxquelles sont confrontés ces jockeys. Et là, la faille dans ça, c'est que lui, il arrive là-bas, il pense qu'il gagne. En fait, il se rend pas compte et petit à petit, il va se rendre compte que les chevaux n'ont pas d'importance, que son métier du coup tombe et sa vie tombe et qu'il reste plus qu'un piège tendu par la mafia et de l'argent facile qui lui sert à rien finalement.
Et d'ailleurs, c'est dans le vide. Ouais, ce moment où ça se réalise, c'est un moment d'entretien où il est comme reçu là face à face avec trois ou quatre personnes qui lui disent t'as raté, t'as perdu ta course. Et lui, il parle du cheval. Il dit qu'est-ce qui s'est passé pour ce cheval? Le cheval que j'ai monté ce matin, c'est pas le même que celui que j'ai monté cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce cheval? Comme s'il essayait de ramener les choses à l'animal alors que tout le monde s'en fout, quoi. Qu'on est en train de faire autre chose en fait. On est en train d'organiser des gains, des jeux, voilà. Du pari. Et l'animal est loin, petit
très,
à petit.
Très loin, très très loin.
তুফান ডাকছে
আপনি পারবেন না
আমার শোয়ারের পোশাক
আপনি পারবেন না হুজুর
আমার চাবুক
তুমি ওকে যেতে দিলে
মানা তো করলাম কিন্তু শুনলেন না
সর্বনাশ
Thank you.
je ne suis pas certaine, Charles Lemot, de dire aussi bien le nom de ce réalisateur. C'est un film qui date de 1958, qui s'appelle dans son titre français Le Salon de Musique, et il est signé
Satyajit Ray.
Et voilà. C'est un réalisateur bengali qui est mort en 1992. Ce film, on a entendu des sabots et un galop.
C'est la version vinyle que vous avez trouvée.
Oui, c'est la version vinyle qu'on a trouvée. Alors, pourquoi ce dernier choix?
Pourquoi? Parce que c'est un film extraordinaire, d'abord. Parce que c'est un réalisateur extraordinaire aussi, qui a cette espèce de regard très naturel, finalement, très distant et très intéressé par ses une espèce de pas mal de lien avec Werner Herzog, finalement, d'une certaine façon, peut-être un peu plus fantaisiste que Werner Herzog, mais c'est vrai qu'il nous décrit là une très belle fable de cet homme qui a tout perdu, qui est un riche aristocrate, je ne suis pas spécialiste des castes indiennes, je sais comment ça marche, et qui a tout perdu en dépenses somptuaires après la mort de sa femme, et il lui reste deux choses, l'amour de la musique et l'amour de son cheval. Il perd tout, il peut plus faire de la musique, il part avec son cheval sur la plage, bon, je simplifie un peu. Il part avec son cheval sur la plage et il finit par tomber dans une espèce de suicide organisé, le cheval le regarde avec sidération et c'est, je trouve ça très beau parce que c'est l'animal qui regarde avec stupéfaction son maître qui est en train de mourir.
Alors c'est marrant, vous faites à la fois appel à Herzog, et là vous décrivez le regard du cheval sur cet homme qu'il a tant aimé et qui finit par se suicider. Alors pour en revenir à cette phrase sur laquelle vous avez beaucoup insisté tout à l'heure, il y a juste la nature. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre la description que vous faites du regard de ce cheval sur l'homme qui a été son compagnon, son ami, son maître?
Mais je vous ramène toujours à votre introduction, c'est que le cheval c'est plus que tout. Justement, ça peut
c'est
pas
que la être... phrase, la phrase de Herzog, elle vaut pour tout le vivant et tous les animaux, mais pas pour le cheval.
Peut-être. C'est ça le mystère.
Sérieusement.
Oui, mais c'est ça le mystère. C'est ça le mystère du cheval, peut-être. Bien sûr qu'il y a un mystère dans le cheval. Toutes les représentations d'animaux ont des symbolismes, ont des choses assez figées, symbolismes qu'on peut facilement entre nous démonter. On fait semblant de continuer, mais avec des mystères aussi. Ça, par exemple, le lion qu'on retrouve partout, on emmène dans des endroits où il n'y a pas de lion et on n'a jamais vu. Du côté occidental, bon, les lions étaient remontés par l'Afrique du Nord, mais par les Romains. Mais en Asie, en Chine, les lions, quand ils sont là depuis toujours dans la représentation chinoise, et ils en ont vu assez récemment, enfin récemment, par rapport au cours de l'histoire, je pense.
Du coup, ce qui est très bizarre.
C'est très bizarre. Donc, mais il y a des choses comme ça très bizarres. Mais le cheval, c'est à part, quoi. Le cheval, c'est Alexandre le Grand. Le cheval, c'est les premières représentations de l'homme. C'est tout le monde, quoi. C'est le cheval, c'est quelque chose qu'on peut pas décrire.
Et donc du coup, dans cette scène-là du film Le Salon de Musique, vous voyez cet à part qui apparaît?
Oui, et puis je vois un contrepoint plus fin et plus romantique au sens commun et plus détaché à ce film justement du Cavalier électrique. C'est aussi une espèce d'empathie, de retournement des choses, un peu magique, un peu qui aurait pu être enfantin mais qui l'est pas parce que le film est très fin et très complexe.
Comment vous le découvrez, ce film de 1958?
Peut-être là, vous me posez une question un peu embarrassante, parce que c'est un film très très connu, en fait, hein, qui a eu, je crois, plein de prix partout.
Oui, mais ça ne raconte pas comment vous le découvrez.
Oui, moi, je le découvre, je sais pas, comme tout le monde, parce que je ne sais pas.
Comme tout le monde.
Thank you.
Un extrait du dernier disque de Christine Hoth, Charles Demoux, pour terminer cette carte blanche cinéma autour de l'animal. Alors, vous avez dit Anna Sandor, c'est pas un animal, non, mais c'est une sorte de, comment on pourrait dire, structure de production.
Littéralement, c'est une société de production, parce qu'on fait des choses réelles, on est dans le monde réel, on produit vraiment des films. Et au départ, c'est une idée, c'est cette idée qu'on avait besoin que... Déjà, c'est une conscience très très aiguë du fait que la maîtrise de l'outil de production influe sur le résultat et que finalement, il n'y a pas, comme on sait maintenant qu'il n'y a pas tellement de différence entre le fond et la forme, c'est pas des notions efficientes, ces genres de séparation. La séparation entre la production et la réalisation des œuvres ou des films n'est pas non plus très opérante. Et donc, prenant conscience brutalement peut-être de ce fait, nous avons voulu avoir notre outil de production.
Quand vous dites « nous », ça regroupe, alors on l'a dit tout à l'heure, Happy Chapong, Veracetta Cool, mais aussi, par exemple, Pierre Huyghe, dont tout de même je me souviens que c'est un artiste qui est parvenu à installer un chien errant dans les salles du musée du Centre du Pompidou à Paris, ce qui n'est pas chose facile, cette introduction de l'animal vivant dans l'art.
C'est effectivement, mais c'est une chose difficile parce que bon, l'animal a toujours été un des grands sujets de l'art en fait, même une discipline de l'art, parce qu'il fallait toutes les histoires d'animaux aussi bien mythiques que les représentations structurelles de ce que c'est qu'un animal ont été très très poussées. Et là, ce qu'a introduit Pierre, c'est pas tellement l'animal finalement, c'est l'introduction du vivant dans l'art, c'est-à-dire je sais pas comment, le hasard un peu du programme naturel. C'est-à-dire, il y a une très très belle pièce comme ça qui est une sculpture de Brancusi. Il y a des nids d'abeilles qui s'installent et petit à petit la pièce évolue comme ça au gré du travail des abeilles, de la vie des abeilles.
Ce qui change vraiment vraiment l'expérience qu'on fait d'une œuvre d'art.
Bien sûr, c'est un paradigme complètement différent parce que c'est-à-dire qu'on confie à une action naturelle la finition et la vie de l'œuvre d'art. Quoi.
Et alors vous avez essayé, vous racontiez là à l'instant que vous avez essayé de mettre du vivant ou l'imprévisible de l'animal dans une exposition, c'était pas si facile?
Non, c'est assez compliqué parce que toutes les expositions sont balisées évidemment par toutes les mesures qu'on n'arrive pas à imaginer quand on n'y est pas confronté, de sécurité, d'organisation, de possible, pas possible, et ainsi de suite. Et introduire effectivement du vivant dans une exposition, c'est quelque chose de très difficile. C'est une performance qu'a réalisé Pierre d'arriver à faire ça.
L'animal du côté de l'impossible alors? Quand on est à l'intérieur de l'institution?
Les institutions sont des institutions par définition. C'est-à-dire qu'elles ont des règles, des lourdeurs, On est dans un monde qui est de plus en plus, c'est assez paradoxal, parce que de plus en plus de gens, c'est l'histoire, on revient sur Grizzly Man en fait. C'est un monde où de plus en plus les gens veulent aller au contact de la nature, de l'animal, de ça, mais en même temps, on est dans un monde où la conscience du danger, de l'acceptation des risques est de plus en plus faible. On met des casques pour faire du vélo, tout est organisé, quadrillé. C'est pas forcément un mal, mais c'est en tout cas un état de fait de notre société et qui d'un côté veut aller plus à la nature et de l'autre côté on refuse tous les aléas et tous les dangers.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
14h52 sur France Culture. À cette heure-ci, nos discussions se suspendent pour faire entendre des récits de moments marquants. Cette semaine, c'est Marie Ampe qui se prête à l'exercice. Elle est jeune costumière, elle travaille pour la compagnie du théâtre Inutile et elle se souvient pour nous aujourd'hui d'un choc de spectatrice devant une pièce de Maggie Marin.
C'était en 2009, c'était à Avignon. Ça s'appelait « Description d'un combat ». Donc moi, j'avais jamais rien vu de Maggie Marin. Je savais qu'elle était chorégraphe. Donc on prend les places avec une copine et puis on y va en s'attendant à voir un spectacle de danse. Et puis le spectacle commence et on est un peu surprise parce qu'on n'a pas du tout l'impression de voir un spectacle de danse. Donc on commence à se demander ce que c'est que ce truc. On voit danseurs, interprètes, peut-être on pourrait les nommer interprètes, qui déambulent sur un plateau avec une scénographie un peu particulière, avec des micros HF, et puis qui disent des morceaux de texte dans plusieurs langues différentes, des textes de l'Iliade ou d'autres auteurs antiques ou contemporains qui sont un peu le socle de notre culture et puis qui racontent pour la plupart des récits de guerre. Dans la salle, c'était assez rigolo parce que ça a commencé à gronder, des gens qui commençaient à dire oh, « c'est quoi ce truc ? On se fiche de nous ?» tout ça. Donc l'expérience aussi, c'était assez marrant. Et puis bon, au début, moi, je me disais que j'allais peut-être partir, parce que vraiment, je voyais pas ce que je faisais là. Et puis, je sens quand même des trucs qui commençaient à me titiller. Et Et en fait, donc on est resté jusqu'au bout et j'ai vraiment pas regretté parce que il y a eu. On voyait ces comédiens déambuler et en fait la scénographie c'était une espèce de d'amoncellement de textiles. Alors je crois que la première couche c'était doré ou bleu, enfin, peu importe, mais bon, doré ou bleu. Et on voit ces interprètes qui disent du texte et puis qui de temps en temps se saisissent d'un morceau de tissu, le déplacent ou viennent l'installer sur eux, le draper, et d'un coup, pouf, il y a un personnage qui émerge en relation avec ce qui est raconté, et puis hop, ça disparaît, ça va dans le fond de scène. Donc voilà, ça déambule, ça bouge. Petit à petit, cette couche de tissu disparaît et en fait apparaître une deuxième, donc bleue, on va dire. Je crois que c'est ça. Et donc, pareil, même processus, des figures qui apparaissent, des fois juste avec rien, quoi, un morceau de tissu posé. Et puis des trucs assez étonnants, à un moment donné, une demi-robe qui émerge, un truc complètement fou, très très beau, qu'une une interprète se saisisse, l'accroche dans le dos, dit quelque chose et s'en va avec une grande traîne. Voilà, donc ça continue à bouger, le sol bouge constamment, une troisième couche apparaît, rouge. Donc là, pareil, toujours même dynamique. À un moment donné, un groupe de danseurs se saisissent de textiles, se les drapent. On voit des sénateurs romains qui apparaissent. Et puis hop, ça disparaît. Jusqu'à révéler des corps morts, des armures en fait au sol, des armures vides ou des morceaux d'armure qui sont sur le sol comme ça. Donc voilà, j'étais très très contente d'être allée jusqu'au bout pour voir un peu comment ça fonctionnait. C'était très très fort comme moment, c'était très beau. Et bon, pour ma pratique de costumière aussi, c'était très riche de voir comment, avec juste un morceau de tissu drapé sur un corps ou installé, et un mouvement et une parole, un personnage qui émergeait avec trois fois rien. Donc c'était très 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 beau. Island par Fear of Men, qui est publié par le label Red Essential, choisi par Somanina pour terminer l'émission. Merci beaucoup, Charles Demont, d'avoir été avec nous. Stretch est en DVD et il est édité par MK2 dans la collection Anna Sanders Finn. Les nouvelles vagues, ça se réécoute sur franceculture.fr. On peut aussi se lire et s'écrire via Twitter et Facebook. Merci à Romain Bebec de Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Somanina qui réalisent l'émission aux manettes Jacques Azuber et au droit d'auteur Ben Kachmarek.